Il est complètement fou, ce mec.
Alors, promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour, il est de retour, le jingle fou de Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue dans Complètement à l'Ouest, l'émission qui vous parle de tout, sauf d'immobilier sur Radio Imo. Et aujourd'hui, on va prendre de la hauteur, et je dis « on » car je ne suis pas seule, je suis évidemment en compagnie de celui qu'on ne distingue pas de cette émission, Philippe Boyer. Bonjour Philippe.
Bonjour Johanna, ravi de te retrouver. Alors on attribue au général de Gaulle ce mot presque amical à celui qui lui demandait ce qu'il devait faire de sa vie, et le général de répondre qu'il fallait prendre invariablement la position la plus élevée, car c'est généralement la moins encombrée. Monter, s'élever, gravir, grimper, être à la verticale, prendre du recul, seul ou encordé, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec un invité exceptionnel qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés. Cet invité connaît presque tout de ce qui est vertigineux, l'infiniment petit, la physique et ses particules, comme l'infiniment grand, les plus hauts sommets du monde. Il pratique à la fois l'alpinisme et, comme il le dit lui-même, l'alpinisme de l'âme, en prenant ce recul nécessaire qui le préserve de toute perte d'équilibre et de chute dans le vide, ce vide qu'il connaît si bien puisqu'il fait partie de son quotidien de physicien. Bref, vous l'avez compris, vous l'avez peut-être deviné, nous allons nous élever en compagnie d'Étienne Klein. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Bonjour Étienne Klein.
Bonjour.
Je le disais, nous sommes ravis et très très honorés de vous accueillir dans cette émission de Complètement à l'Ouest. Pour nos auditeurs, vous avez un très grand nombre de facettes. D'abord physicien, philosophe des sciences, je le disais. Mais vous êtes aussi un homme de radio, puisque vous réalisez et animez sur France Culture l'émission hebdomadaire passionnante, La Conversation Scientifique. Je n'oublie pas de préciser que vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, tous ou presque à connotation scientifique et philosophique. Et c'est pour parler du dernier livre que vous avez publié, peut-être celui qui est le plus personnel, que vous nous avez fait l'amitié, le plaisir d'être en studio aujourd'hui. Cet ouvrage a pour titre un peu énigmatique, Psychisme ascensionnel. Mais avant que nous ne parlions de ce livre qui raconte votre amour pour la montagne et pour l'alpinisme, nous avons coutume d'entamer cette émission par un court extrait sonore. Ici, vous allez l'entendre, on ne parlera pas de montagne, mais de vérité, puisque quelques semaines avant la sortie de Psychisme ascensionnel, vous avez aussi publié un autre petit opuscule très incisif, ayant pour titre « Le goût du vrai ». On en reparle dans une minute, le temps d'écouter ce court extrait.
Je suis tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera. Les Égyptiens qui gravèrent ces mots sur le fronton de leur temple croyez qu'il n'y a qu'un effet dont on puisse demander quelle est sa cause. Or, l'univers ne se présentait à ces païens que sous l'aspect d'une cause très puissante.
Dira-t-on encore que notre siècle manque de grands religieux?
La cause première de toute chose doit être nécessaire, absolue, parfaite. Donc, il ne peut y avoir deux êtres infiniment parfaits, car deux ne feraient pas plus qu'un. L'être parfait ne peut être divisé. Celui qui est par lui-même ne peut changer. Or, le temps est la mesure du changement. L'infiniment parfait ne change pas. Unité, immutabilité, éternité, c'est lui, c'est Dieu, qu'on a souri sa propre cause.
Bravo Villecourt, c'est lumineux. Bravo,
bravo. Bravo, ce n'est rien. J'ai démontré ce soir l'existence de Dieu. Mais je pourrais tout aussi bien démontrer le contraire quand il plaira à Sa Majesté.
Alors vous avez bien sûr reconnu cet extrait du film Ridicule de Patrice Lecomte, et c'est ici le fameux passage au cours duquel l'abbé de Villecourt, interprété par Bernard Giraudot, s'évertue à démontrer l'existence de Dieu. Et comme aveuglé par son propre discours, il en vient à affirmer devant le roi qu'il pourrait tout aussi bien démontrer le contraire. Étienne Klein, en rebondissant sur cet extrait, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au cours des derniers mois, dominés par le sujet de la pandémie, sur les plateaux de radio, de télévision, nous avons entendu une multitude d'abbés de Villecourt qui se sont succédés pour nous délivrer leur vérité sur ce virus, en clair que chacun y est allé de sa vérité, quitte à se dédire quelque temps après?
Moi, je crois que vous avez raison. Pendant cette pandémie, on a mis en scène une sorte de confusion entre la science et la recherche. La science et la recherche, c'est deux choses complètement différentes. La science, c'est des connaissances acquises vérifier. On peut en douter encore, mais il faut avoir des arguments très solides pour le faire. Par exemple, la Terre est ronde, l'atome existe, l'univers observable est en expansion. Voilà des faits scientifiques compris, détectés, qu'on a du mal à contester aujourd'hui. Donc la science, je ne dis pas qu'elle dit le vrai, mais elle a à voir avec l'idée de vérité. Mais elle pose des questions, ses connaissances posent des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Et c'est pour cela que nous faisons de la recherche. Par exemple, les physiciens ne savent pas si le neutrino est une particule identique à son antiparticule. On n'en sait rien. Il y a des hypothèses différentes, donc on fait des recherches. Donc on doute. C'est le doute qui est le moteur de la recherche. Mais si vous confondez, comme on l'a fait, la science et la recherche, l'idée de doute qui est consubstantielle à la recherche colonise la science. Et on en vient à dire la science et le doute. Et c'est d'autant plus facile que les scientifiques qu'on a vus à la télévision n'étaient pas d'accord entre eux. Et donc moi, avec mes arguments, mes croyances, mon ressenti, mon bon sens, je me sens autorisé à contester ce que disent les scientifiques, qui disent tout et son contraire, un peu comme dans l'extrait qu'on a entendu. Mais j'aime bien l'idée de cause première que défend ce fameux... Oui, parce que une cause première, c'est une cause qui n'est l'effet d'aucune autre cause. Donc elle est déclenchante, mais elle n'est pas déclenchée. Et en général, on dit ça ne peut pas exister, ça. Une cause qui n'a pas elle-même une cause qui la précède.
C'est un miracle.
Mais en fait, il y a un contre-exemple. C'est le retard. Quand vous êtes dans un hall d'aérogare et vous attendez votre avion, parfois vous entendez cette voix qui vous dit que le vol sera retardé en raison d'une arrivée tardive de l'appareil. Donc la cause du retard, c'est le retard. Voilà une cause première.
Philippe parlait en introduction de votre petit livre Le goût du vrai, où vous employez deux termes, celui d'ultra-crépidarianisme et d'ipsédixitisme, pour évoquer donc ceux qui parlent mais qui ne savent rien, ceux qui ont finalement un avis éclairé sur tout. Déjà, est-ce que vous pourriez revenir sur ces deux termes? Et puis, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'avec cette crise du Covid, la vérité scientifique n'est pas la grande perdante finalement?
On verra à la fin. Je pense que aujourd'hui, on entend parler des gens qu'on n'entendait pas pendant le début de l'épidémie. Par exemple, les chercheurs qui ont mis au point le vaccin à ARN messager, qui va sans doute, j'espère, nous tirer d'affaire, sont des gens qu'on n'avait pas entendus. Ils sont très compétents, mais ils ont été très discrets. Comme s'il y avait une sorte de corrélation entre compétence et discrétion. C'est une corrélation, je ne dis pas que c'est une relation causale. Et en effet, pour ce qui est des termes, l'ipsédixitisme, c'est le fait d'abaisser son esprit critique quand une personne en qui on a confiance parle. On le fait tous, hein, on a confiance en certaines personnes. Et par exemple, on peut avoir confiance dans le vaccin sans du tout connaître le principe du vaccin, parce qu'on a entendu quelqu'un en qui on a confiance dire que c'était sans danger. Et inversement.
On ne prend plus de recul.
Et inversement, voilà. Et donc, il y a une sorte de décorrélation, là encore, entre la compétence et la militance. Mais dans tous les domaines, par exemple, on peut être pour la 5G ou contre la 5G, sans être capable de dire ce qu'est la 5G. Et puis, l'ultra-crépidarianisme, c'est le fait, en fait, de parler au-delà de ses compétences. Mais ce n'est pas du tout une critique que je fais de cette tendance que nous avons tous. Quand vous allez au café, enfin, je parle des temps anciens, vous allez au café avec vos amis, vous discutez de tout et de n'importe quoi, et vous ne dites pas que les choses que vous savez. Vous émettez des hypothèses, vous allez donc au-delà de vos connaissances. Donc l'ultra-crépidarianisme a à voir avec la démocratie. Chacun a son mot à dire et a le droit de le dire. Simplement, en matière de science, parfois c'est embêtant. Parce que les compétences peuvent être, ou les connaissances, peuvent heurter le sens commun, être contre-intuitives, et donc elles ne sont pas dans le prolongement de la pensée immédiate. Et donc, oui, il y a beaucoup de gens qui ont parlé au-delà de leurs compétences. C'est la fameuse phrase qu'on a beaucoup lue et entendu au début de l'épidémie, je ne suis pas médecin, mais je. Non, le jeu est important, parce qu'il faut un peu de narcissisme quand même. Je ne suis pas médecin, mais je. C'est-à-dire, c'est honnête, vous déclarez que vous êtes incompétent en tant que médecin, vous n'êtes pas médecin, et aussitôt vous délivrez une ordonnance. Et là, il y a une sorte de paradoxe.
Alors, avant que nous ne passions à psychisme ascensionnel, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question aux scientifiques humanistes que vous êtes avec cette question toute simple. Il y a de nombreux discours sur l'innovation et le progrès, en particulier en cette période de monde d'après. Est-ce que vous diriez qu'en ce début de 21e siècle, on ne sait plus très bien si on a davantage besoin d'innovation ou de progrès?
Bon, alors, ça serait une longue réponse, hein, si je voulais être exact. En fait, le mot progrès, il a disparu des discours publics.
Il existait par le passé, au 19e siècle.
Il a été structurant de la modernité. On l'a même écrit avec une majuscule pendant 3 siècles. Il a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale et il a été remplacé à partir des années 1980, progressivement, par le mot innovation qui a fini par s'imposer de façon exclusive. Et on pourrait dire, ben, c'est un changement de vocabulaire, on a modernisé l'idée de progrès en parlant d'innovation. Mais quand on regarde les rhétoriques dans lesquelles on insère l'idée de progrès, on insérait l'idée de progrès et qu'on la compare à la rhétorique dans laquelle on insère aujourd'hui l'idée d'innovation, on s'aperçoit que notre discours sur l'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès. Pour le dire simplement, l'idée de progrès suppose que le temps qui passe est constructeur. Il est complice de notre liberté et de notre volonté. On configure le futur à l'avance d'une façon crédible et attractive et on travaille à le faire advenir tel que nous l'avons pensé.
C'est une version humaniste.
Voilà. Et alors que nos discours sur l'innovation sont des discours dans lesquels implicitement on considère que le temps qui passe est corrupteur. Le temps dégrade les situations, aggrave les défis que nous avons à relever et on explique que sans l'innovation, on ne pourra pas relever ces défis. Et je pense que ça, c'est quand même un discours qui n'est pas très engageant pour l'avenir parce que il s'appuie non pas sur une vision qu'on aurait du futur, mais sur l'état critique du présent. Et pour les jeunes, je pense que c'est assez anxiogène de parler ainsi. Il vaudrait mieux trouver le moyen de faire progresser l'idée de progrès, c'est-à-dire de la soumettre à elle-même finalement, de comparer ce qu'on pourrait en dire aujourd'hui à ce qu'en disaient les philosophes des Lumières pour faire en sorte que notre idée du progrès soit elle-même modernisée et correspondent à la situation présente.
Alors, on en vient à Psychisme ascensionnel, ce fantastique petit livre. Et vous faites un drôle de parallèle entre l'alpinisme, les mathématiques et la physique. Vous dites, et c'est en page 28, que pour vous, la montagne et la science se ressemblent, car ce sont des mondes étrangers à conquérir. Expliquez-nous ça.
Alors d'abord, le titre Psychisme ascensionnel, c'est une expression que je dois à Gaston Bachelard. Qui a écrit philosophe des sciences, qui a écrit un livre absolument sublime qui s'appelle L'air et les songes. Et quand il parle de la philosophie de Nietzsche, il dit qu'elle relève d'un psychisme ascensionnel. C'est-à-dire, c'est un peu comme ce que vous disiez en introduction à propos de Gaulle, c'est avoir le sens de la montée. C'est avoir le regard qui porte haut plutôt qu'un regard qui regarde ses pieds. Et en effet, moi j'ai une fascination commune pour à la fois les pionniers de la physique, les premiers, notamment de la physique quantique, des jeunes gens dans les années 20 qui inventent une nouvelle physique, une nouvelle façon de comprendre les phénomènes, sans jamais s'inspirer de concepts familiers, en inventant des nouveaux concepts. Et puis les pionniers de l'alpinisme, ceux qui ont fait le Cervin pour la première fois ou la face nord de l'Eiger. On voit bien que même si on est un très grand alpiniste d'aujourd'hui, on aurait du mal à faire ce qu'ils ont fait avec les moyens de l'époque.
Sans informatique,
avec
notamment.
Le matériel de l'époque, avec... Je pense à la face nord de l'Eiger, des cordes de chanvre, pas de vêtements imperméables, pas de pointe avant aux crampons, des piolets plutôt longs et pas très commodes. Ne connaissant pas la voie, et pour cause, c'est la première.
Bien sûr. Et ils l'ont fait.
Et ils l'ont fait.
Et ils l'ont fait.
Vous dites également, page 51, que l'ascension d'une montagne est identique à l'esprit scientifique. Elle permet des changements de point de vue. Et qu'en science, comme en montagne, la progression peut être longue, pénible et périlleuse. Ça a l'air terrible.
Oui, mais non, mais c'était une remarque d'Einstein. Il dit finalement, construire une nouvelle théorie, c'est comme escalader une montagne, on arrive au sommet ou même à un col. Et de ce point de vue-là, on a un regard sur l'endroit d'où on vient, le village d'où on est parti, par exemple, qui est complètement différent.
Nouveau,
il est complètement différent. Il y a une relecture du paysage qu'on avait fréquenté auparavant. Donc ça change la perspective. Et par exemple, la théorie d'Einstein de la gravitation... qu'on appelle la relativité générale, change complètement la façon de comprendre la gravitation. On parle de la même chose, la gravitation, mais la façon de la comprendre est complètement bouleversée. Et les moments de découverte ou de joie, la joie de comprendre, elle est d'autant plus grande qu'il y a une grande difficulté à comprendre, qu'on a passé des années parfois à buter sur un problème. De même qu'une montagne, si l'ascension est très difficile... Le fait d'arriver au sommet procure une joie qui est plus grande que celle qu'on a en faisant simplement une randonnée.
Les physiciens que vous citez, ou les scientifiques, eux-mêmes aussi, pour certains d'entre eux, étaient alpinistes. Ils ont eu ce sentiment de gravir et d'arriver à un point de vue nouveau. L'alpinisme les a aidés à concevoir.
J'ai pas fait une enquête complète, mais en effet, les pères fondateurs de la physique quantique, alors des gens comme Heisenberg, Fermi, Schrödinger, Einstein d'une certaine façon, Bohr, étaient des gens qui faisaient de la randonnée ou de la montagne. Paul Dirac, qui a découvert l'antimatière, a escaladé le mont Elbrouz, qui fait 6400 mètres, très peu de temps après que la première de cette montagne ait été réalisée. Alors, est-ce que c'est un effet de mode qui prévalait à l'époque ? Est-ce que c'est le fait que, quand on est physicien, on a un tropisme pour les paysages
En élévation ?
En élévation, je ne pourrais pas le dire. D'autant plus qu'il y a des exceptions. Paoli avait du diabète et il n'a jamais escaladé quoi que ce soit. Et Ettore Majorana, un physicien absolument génial, italien qui a disparu mystérieusement à 31 ans, fumait à une cadence d'essuie-glace et n'a jamais escaladé quoi que ce soit. Donc il y a des contre-exemples. Mais il y avait quand même à cette époque, en effet, une sorte de, d'élan vers l'altitude.
Alors, il y a moins de 15 jours, l'alpinisme a été endeuillé, avec notamment la mort de l'Espagnol Sergi Mingote, qui est mort pendant une expédition sur le massif du K2 au Pakistan. C'est le deuxième plus haut sommet de la planète, auquel vous consacrez d'ailleurs un court chapitre dans votre livre. Et j'évoque ce fait d'actualité car vous évoquez quelque chose d'essentiel pour tous les alpinistes, c'est la cordée. Vous dites même, je vous cite, que la cordée peut être rapprochée de ce qu'on appelle en physique quantique une intrication, c'est-à-dire une sorte de lien. Alors, il faut que vous nous expliquiez en quelques minutes, secondes, la physique quantique. Vous n'y couperez pas. Et surtout, tout le symbole de la cordée. Et vous parlez même, encore une fois, d'esprit de cordée. Qu'est-ce que c'est que cet esprit de cordée ?
Alors d'abord, l'esprit de cordée, la plus belle illustration de ce qu'il est, peut se voir sur une petite vidéo qui a été mise en ligne il y a quelques jours, où on voit les 10 Népalais qui ont fait la première ascension du K2 en hivernal.
En hivernal,
on pensait que le K2... En hiver, c'est impossible. Hein. Le K2, c'est une sorte d'incarnation géologique de l'angoisse. C'est-à-dire il y a des vents qui peuvent surgir immédiatement à 300 km/h. On a déjà vu des cordées s'envoler en l'air sous l'effet du vent. C'est une montagne terrible. On meurt surtout à la descente.
Oui.
Et il y a moins de gens qui ont atteint le sommet du K2 qu'il y en a qui sont allés dans l'espace. Donc c'est quand même une montagne pas facile. Et là, on voit 10 alpinistes népalais qui s'attendent à 10 mètres du sommet. Ils s'encordent, ils chantent l'hymne népalais et en se tenant par la main, ils atteignent le sommet.
C'est ça l'esprit de cordée ?
C'est ça l'esprit de cordée. Ça, c'est l'illustration.
C'est quoi ? C'est la fraternité, quelque part ?
C'est le fait que on dépend de l'autre et l'autre dépend de nous d'une façon parfaitement symétrique. Il n'y a pas un premier de cordée, ce n'est pas deux individus. C'est une totalité qui est plus importante que la somme de ses parties. Et la corde est le lien symbolique de cette intrication qui est aussi un phénomène quantique. Alors je ne dis pas qu'une cordée est un phénomène quantique, je dis simplement que c'est une bonne métaphore de ce qu'on appelle l'intrication en mécanique quantique, qui est le fait que deux particules qui ont interagi dans le passé peuvent rester corrélées à distance d'une façon qui ne diminue pas quand la distance qui les sépare augmente.
Okay.
Donc il y a une sorte de lien insécable qui les unit et toute action qu'on fait sur l'une, par exemple, si on fait une opération de mesure sur l'une des deux particules, ça a un effet immédiat sur l'état de l'autre particule, sans qu'il y ait propagation d'un message par le biais d'une interaction. Donc c'est un phénomène qu'on appelle aussi la non-séparabilité, qui est assez mystérieux d'ailleurs, et la cordée est à mon avis l'illustration macroscopique la plus imagée et la plus vraie en quelque sorte de ce phénomène quantique.
Merci Étienne Klein pour ces premières explications absolument passionnantes. On va faire une petite pause musicale, comme on a l'habitude de le faire dans cette émission. En 2014, au Montreux Jazz Festival, mec mondial du jazz, des physiciens du CERN, on va dire, s'étaient associés à des musiciens pour tenter de mettre l'univers en musique. Ça a donné des tas de morceaux de musique censés démontrer le caractère aléatoire de l'univers avec des notes de morceaux de jazz ou de rock. Difficile de dire si ça a été concluant, mais en tout cas, cette expérience s'est conclue par un morceau de rêverie avec la réinterprétation de ce magnifique classique du jazz et le génie pianistique d'Ora Silver. On écoute son Celebrating Song for My Father, autrement dit, une chanson pour mon père. C'est parti.
complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Alors, psychisme ascensionnel avec Étienne Klein est truffé de références aux sciences, et c'est bien normal. Vous dites à plusieurs reprises que l'alpiniste, comme le scientifique, avance seul. Il fuit les autres tout en cherchant un aboutissement de soi. Je pensais que lorsqu'on en était encordé, alors je ne sais pas comment l'écrire, on a un seul mot, on deux mots, on était tout sauf seul, puisqu'accrochés aux autres, dépendant des autres. Est-ce que pour être un alpiniste, il faut à la fois rechercher la compagnie des autres, tout en la fuyant?
Il faut, disons, chercher ce que j'appellerais des interactions privilégiées. Il ne s'agit pas de faire foule, il s'agit de choisir des compagnons cordés avec lesquels on sait que ça va bien se passer. Le fait d'être encordé, d'ailleurs, impose une forme de discipline dans le comportement. On ne peut pas faire n'importe quoi dans une cordée. On ne peut pas s'énerver. Donc, le fait d'être encordé, c'est, d'une certaine façon, ça responsabilise et ça relie. Et je pense que si dans la vallée ou dans la plaine, on avait davantage ce comportement, la société irait mieux. Voilà.
Donc, tous encordés. Johanna.
On imagine un alpiniste qui chemine sur la crête d'une crevasse et de chaque côté, il y a le vide. Et ce vide-là, quand on se trouve à 4, 5, 6 000 mètres d'altitude, eh ben, ce n'est pas le même vide théorique que côtoie le physicien dans son labo. Alors, en tant que physicien, Étienne, vous êtes un habitué du vide, de l'espace, du temps, de l'espace-temps. Que vous inspire ce vide qui entoure l'alpiniste et est-ce qu'il vous inspire autant que le vide de la physique?
Absolument. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur le vide qui s'appelle « Ce qui est sans être tout à fait », avec comme sous-titre « Essai sur le vide ». Et vous voyez les alpinistes sont des gens un peu fous puisqu'ils appellent vide ce dans quoi ils peuvent tomber, c'est-à-dire ce qui est sous eux, qui est beaucoup moins vide que ce qui est au-dessus d'eux.
C'est-à-dire
bah, par exemple, si vous êtes à 5000 mètres, vous pouvez faire un petit calcul. Et imaginez que vous tombez d'une hauteur de 5000 mètres jusqu'au niveau de la mer. Ce faisant, vous allez traverser davantage de matière, parce qu'il y a du gaz dans l'atmosphère, que si vous allez sur la surface de la Lune.
Où il n'y a pas de gaz.
Donc voilà. Et donc, le vide, il est au-dessus de vous. Il est précisément ce dans quoi vous ne pouvez pas tomber.
Donc les alpinistes n'ont pas peur du vide?
Non. Alors d'ailleurs, il y en a certains qui parlent non pas de vide, mais de gaz. Quand ils disent « il y a du gaz », ça veut dire justement qu'il y a beaucoup de vide, entre guillemets, sous eux. Et donc le vide dont on parle n'est pas vide puisqu'il est plein de gaz. Et le vide qu'on appelle quantique en physique, c'est un vide qui est plein de choses. C'est l'espace-temps plus des particules virtuelles à l'intérieur. Mais ce sont des particules virtuelles qu'on ne peut pas retirer. Donc ça change la définition du vide. Parce que quand vous regardez la définition du vide dans un dictionnaire, vous tombez sur cette phrase. Le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé.
Oui.
Sauf que si vous enlevez absolument tout, il ne reste plus rien.
Oui. Donc c'est un vide.
Donc c'est
plein.
Le néant.
Oui.
Donc ça c'est une définition.
Donc c'est pas du
néant.
Vide. Donc c'est pas du vide.
Or le vide c'est quelque chose de particulier. Donc la bonne définition c'est le vide c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Et donc là vous devez choisir une théorie physique qui vous dit ce qui existe et parmi les choses qui existent celles que vous pouvez retirer. Et une fois que vous les avez retirées au moins par la pensée, il vous reste ce qu'on appelle le vide. Donc le vide dépend de la théorie physique que vous avez choisie comme référence. Le vide classique n'est pas le même que le vide quantique.
C'est une conversation quantique que nous avons là.
D'ailleurs, il y a deux vides en physique aujourd'hui. Il y a celui de la physique quantique qui est plein de trucs. Et il y a celui de la relativité générale, la théorie d'Einstein, qui est d'une autre nature. Et la question, c'est est-ce qu'il peut y avoir deux vides différents dans l'univers? S'il y en a deux, ça veut dire que l'un contient l'autre. Dans ce cas-là, il est plus vide.
Psychisme ascensionnel, c'est d'abord un livre de philosophie. Certes, vous parlez d'alpinisme, mais vous évoquez en fait une forme d'alpinisme de l'âme. Et votre livre, en fait, me fait penser à un récent succès de librairie avec La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson. Et il y a ce passage où il parle de ces soldats d'élite finlandais et ce mot de sisu, je ne sais pas s'il est correctement prononcé, qu'il traduit par abnégation spirituelle, oubli de soi, résistance mentale. Et en relisant ce passage du roman de Sylvain Tesson, cela m'a fait penser à votre livre. Quelles sont les qualités que doit avoir un alpiniste? Est-ce que ce sont ces qualités-là d'abnégation, d'oubli de soi, qui sont d'abord qui priment quelque part sur tout le reste?
J'ai réfléchi à votre question, j'y réfléchis encore, je n'ai pas la bonne réponse. Je ne sais pas quelles sont les bonnes qualités d'un alpiniste, parce qu'il faut être en bonne condition physique, évidemment. Il faut avoir de la détermination et en même temps savoir renoncer si les conditions se présentent mal.
Ou si d'autres de cordées ne
voilà,
veulent pas avancer.
Donc, je pense que c'est des... Disons que les alpinistes qui vivent vieux sont des gens prudents. Voilà.
Donc la prudence.
Moi, je dirais que c'est la prudence. Et Sylvain Tesson, qui pratique l'alpinisme, comme vous le savez, en a donné une définition que je trouve magnifique. Il disait l'alpinisme consiste à résoudre le problème de l'absurdité de la vie par l'adoption d'un comportement d'une absurdité supérieure.
Supérieure dans tous les sens du terme.
Et puis dans votre livre, il y a cette anecdote assez incroyable. Vous dites, page 53, que c'est du haut d'une montagne qu'Albert Einstein a eu un flash en comprenant qu'il y avait une relation entre l'espace et le temps. Alors, si on a bien lu le livre et sans forcément comprendre toute la portée de cette découverte, c'est la théorie selon laquelle le temps serait relatif, c'est bien ça ?
Exactement.
Est-ce que pour vous, la montagne vous a déjà procuré ce genre de fulgurance intellectuelle ?
En l'occurrence, Einstein, il était avec son ami Michele Besso dans une montagne qui est autour de Berne, et il voyait la grosse horloge qui est dans la ville. Il montait très tôt dans le matin, avant le lever du jour, et ils ont vu que l'horloge indiquait 7 heures. Donc la petite aiguille sur le chiffre 7, la grande sur le 0, ou le 12, et ils se sont demandé, mais il est 7 heures ici ou là-bas ? Parce que la lumière met un certain temps pour nous parvenir, donc... Le temps qu'elle a mis pour franchir les quelques kilomètres qui les séparaient de cette horloge, l'heure indiquée n'est déjà plus la bonne. Et donc, comment est-ce qu'on lit l'heure si l'horloge qu'on lit est à grande distance de soi ? Alors, pour ce qui me concerne, j'ai jamais eu d'idée géniale en montagne, j'ai peut-être même jamais eu d'idée géniale tout court, nulle part ailleurs, mais non. Par contre, une course en montagne, ça épure l'esprit. C'est-à-dire que, pour des raisons... peut-être chimique ou biologique ou métabolique, le cerveau, après une longue course, n'est plus dans les mêmes dispositions qu'au départ. Il s'est passé quelque chose et on a une vision un peu plus aérée de ses pensées. On en a peut-être d'autres aussi. Et je trouve ça très, très intéressant à analyser, à comprendre, à vivre surtout. Notamment dans l'ultra-trail, hein, quand vous faites des courses à pied, cette fois sur des très longues distances, il se passe dans le cerveau des choses étonnantes que connaissaient sans doute nos ancêtres néandertaliens lorsqu'ils allaient chasser sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Notre corps est fait pour ça, en fait. Notre corps, il est fait pour l'endurance. Il n'y a aucune espèce animale qui soit plus endurante que nous. Hein. Je sais pas si vous savez, il y a des tribus en Afrique ou bien en Amérique du Sud qui pratiquent ce qu'on appelle la chasse par épuisement. Donc ils chassent sans armes. Simplement, ils courent après les bestioles. Ah oui. Et une fois que les bestioles se sont effondrées de fatigue, ils continuent
à les... Et ils les
laissent mourir de fatigue.
Ah oui.
C'est incroyable.
Ça veut dire que l'homme est d'une endurance incroyable grâce au fait qu'on a des glandes sudoripares, on peut transpirer, donc évacuer la chaleur par la transpiration. On a une colonne vertébrale en S qui nous permet de courir. Bref, on a toutes sortes d'avantages. Il faut cesser de dénigrer l'espèce humaine.
Alors, une question juste un peu théorique, il nous reste malheureusement assez peu de temps, qui m'a intrigué, et j'avoue d'avoir dû m'y reprendre à plusieurs fois avant d'envisager d'avoir les idées claires lorsque vous expliquez le paradoxe de la nuit noire. Et j'aimerais vraiment que, pour nos auditeurs, rapidement, ça va être compliqué, que vous nous expliquiez ce paradoxe-là qui est présent aussi dans votre ouvrage.
Mais non, c'est très simple, c'est une remarque qu'avait faite Kepler. Dans toutes les directions dans lesquelles vous pouvez regarder, vous tombez sur une étoile. Donc l'étoile, le ciel, il est pavé d'étoiles. Et quand vous faites le calcul de la luminosité émise par toutes les étoiles, vous trouvez l'infini. Donc il devrait y avoir de la lumière dans l'univers à toute heure du jour et de la nuit. Et on ne devrait pas avoir besoin du soleil pour nous éclairer dans la journée. Il devrait faire jour tout le temps.
Aussi la nuit.
Aussi la nuit. Et la question, c'est pourquoi il y a une alternance de jour et de nuit. Et ça a été un grand paradoxe qu'on appelle le paradoxe d'Olbers. Il a fallu 3 siècles pour le résoudre. Et en fait, le fait qu'il fasse nuit la nuit ne peut s'expliquer que lorsqu'on met ensemble 3 ingrédients. Premièrement, la vitesse de la lumière est finie. Deuxièmement, l'univers est en expansion. Troisièmement, l'univers lui-même a un âge fini. Et donc, ça change.
Et donc, la conjonction de ces 3 éléments fait qu'on explique pourquoi il fait sombre la nuit.
Oui, et j'ai une autre question à vous poser, parce qu'on a le droit d'inverser les rôles.
Posez-la.
C'est quand vous êtes sur la Lune, il fait tout le temps nuit, même quand le soleil est là, et le ciel est noir. Et donc la question que je vous pose, c'est pourquoi il fait nuit tout le temps sur la Lune, et pourquoi sur la Terre, il fait nuit que la nuit.
Bonne question. Je vais y réfléchir. On va y réfléchir. Redescendant sur Terre avec cette question très prosaïque, toutes les années, peut-être moins depuis quelques mois où les déplacements sont limités, on parle beaucoup de pollution et de déchets que l'on trouve à haute altitude du fait des hordes d'alpinistes qui prennent d'assaut les sommets. Et je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on pouvait aimer s'élever, gravir ces montagnes, tout en pouvant à ce point saccager les paysages, quand on voit les photos de pollution en haut du Mont Blanc notamment, en laissant sur son passage ses propres déchets. Alors, ce n'est pas une question en tant que telle, juste une réaction d'alpiniste que vous êtes.
En effet, moi, je suis choqué comme vous. Ce n'est pas parce qu'on est alpiniste qu'on se comporte toujours bien. En plus, les déchets, ils sont lourds, il faut les redescendre. Il y a peut-être des effets de fatigue qui rendent les alpinistes négligents de ce point de vue. Mais je ne vais pas les juger du confort de ce studio.
Merci infiniment, Étienne Klein, d'avoir été notre boussole pour cette émission vraiment passionnante. C'est peu dire, nous avons été aussi honorés de vous accueillir à ce micro, et s'il était encore besoin de le dire, je rappelle que vous êtes physicien, philosophe des sciences, écrivain, producteur de radio sur France Culture, avec l'émission hebdomadaire La Conversation Scientifique, et puis vous êtes aussi et surtout alpiniste. Vous avez écrit Psychisme Ascensionnel, un magnifique petit livre d'entretien sur la montagne, les cimes, l'altitude, bref, une prise de hauteur sur la vie, la science et la nature, et ce matin on en a eu un magnifique extrait, et c'est publié chez Artaud. Merci Johanna, et merci à toute l'équipe de Radio Imo pour la préparation.
Merci à vous Philippe, je crois qu'il va en falloir faire une deuxième émission quand même, parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi il fait nuit sur la Lune.
Oui, ça mériterait une émission en tant que telle.
Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune.
Ah.
Bon, vous reviendrez quand même, c'est pas grave.
Merci encore, merci à tous, et puis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. En attendant, cette émission peut être réécoutée en balado-diffusion sur le site de Radio Imo et sur tous les players de podcasts, comme on dit. D'ici là, bon vent et cap à l'Ouest, Complètement à l'Ouest.
Mais il est complètement fou, ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger.
Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'Ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.